RMC jusqu'à 14h. Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Salut à tous, c'est Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Salut Louis, bonjour à tous.
À la une de la F1, évidemment, pas de Grand Prix cette semaine, mais beaucoup d'annonces. Fred Vasseur, le patron de Sauber, sera avec nous dans une dizaine de minutes. Au programme également le MotoGP à Saint-Marin, départ de la course dans moins d'une heure. Un Français fera ses débuts, on vous le présentera. Et Eric Mahé, le manager de Fabio Quartararo, sera notre invité. Et puis dans Radio Paddock, autour de 13h45, de l'IndyCar et du Rallye. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. Il y a un direct en cours en ce début d'après-midi, c'est la suite de la troisième journée de Top 14, le match entre Grenoble et Pau. Salut Jérémy Donzet.
Salut Louis, salut Jean-Luc.
Où en est-on ?
Salut.
34 minutes de jeu ici au Stade des Alpes et Pau qui mène toujours 7-6 face à Grenoble. La section paloise qui a écrit le seul essai de cette rencontre. 14e minute, l'essai de Jesse Mogg sur une grosse percée de plus de 50 mètres. Et Franck Porto qui a ramené les Grenoblois à un petit point. Deux pénalités de l'ouvreur grenoblois. On s'y attendait. Match très équilibré entre les deux équipes. Un petit point d'avance pour la section paloise ici à Grenoble.
Merci Jérémy. Dans un instant, un homme en colère. C'est le coup de volant de Jean-Luc Roy. Mais d'abord, voici les infos de la semaine en F1.
RMC Motors. Le tour de chauffe.
Pas de Grand Prix cette semaine, Jean-Luc. Il faudra attendre le week-end prochain. Ça sera à Singapour. On sera là, hein, 14h10 en direct
comme
sur RMC.
Toujours.
Mais beaucoup, beaucoup d'annonces ces derniers jours. On a l'habitude de parler de Silly Season, la saison folle. Cette année, elle porte mieux que jamais son nom, Jean-Luc.
Effectivement, c'est vrai que d'habitude ça se cantonne à peu près au mois d'août, c'est-à-dire qu'effectivement à la rentrée, donc pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps et puis le suivant à Monza, classiquement pour Ferrari, on connaît à peu près la teneur du plateau, qui va où, et après c'est le jeu que tu connais par cœur des petites chaises musicales. Et bien cette année, effectivement, la Silly Season s'étend, on peut dire, puisque l'annonce de Ferrari que tout le monde attend, tout le monde est évidemment suspendu à l'une des chaînes, l'un des baquets les plus importants du paddock, hein. On sait chez Mercedes très tôt, on a confirmé donc les de pilotes actuels.
Hamilton et Bottas,
bien sûr, pour y revenir. Du côté de Red Bull, la surprise, la demi-surprise après le départ de Ricciardo, juste pour revenir sur l'effet précédent, si par hasard vous étiez à l'autre bout du monde pendant 3 semaines ou 1 mois, on vous en veut pas. Eh bien, effectivement, Ricciardo est parti, et ça, c'était une vraie surprise. Tout le monde s'attendait à ce qu'il reconduise son contrat chez Red Bull, et puis non, il a choisi Renault, ou plutôt Renault l'a choisi, a fait ce qu'il fallait pour le faire venir, donc c'était évidemment une énorme nouvelle qui, du coup, décalait un petit peu tout le monde, et on va y revenir. Et ça a permis, ça c'est absolument formidable, à Pierre Gasly, qui, à peine arrivé chez Toro Rosso depuis une année, même pas, hein, une saison même pas pleine, on va dire, eh bien, est monté directement chez Red Bull aux côtés de Verstappen. Donc ça, c'est excellent pour nous Français, excellent pour Pierre Gasly qui a le talent. Donc ça faisait une partie des chaises musicales. Mais il en reste.
Il en reste, et justement à propos de Red Bull, vous savez que Red Bull a une autre écurie, une écurie satellite qui s'appelle Toro Rosso, le taureau rouge en italien, ça,
bah oui,
ça tombe sous le sens. Et depuis longtemps, la filière Red Bull avait pris, Jean-Luc, l'habitude de construire des jeunes pilotes, d'abord chez Toro Rosso, pour ensuite les faire monter. Ça a été le cas pour Pierre Gasly, notamment, pour Max Verstappen aussi. Mais on dirait que la source est en train de se tarir un petit peu.
Et oui, il y a un vrai problème actuel qui est plus large, hein, de recrutement en Formule 1, et surtout permettre du talent. Les jeunes pilotes en ont, naturellement, la volonté de monter en Formule 1 aussi, mais on a l'impression que c'est le système, le fameux système, le terrible système de l'entonnoir. Il n'y a plus assez de baquets en Formule 1, je le dis sur cette antenne depuis des années maintenant, il n'y a plus que 20 baquets, ça n'est pas assez, parce que les trois équipes qui ont disparu, eh bien, c'est les équipes qui occupaient le fond de la grille, malheureusement, classiquement, qui misaient sur des jeunes pilotes, qui permettaient à des jeunes pilotes d'accéder à la Formule 1. Ça n'est plus le cas. Alors, on se dit que dans une structure comme celle de Toro Rosso et de Red Bull, parfaitement mise au point et parfaitement rodée, ça devrait fonctionner. Eh bien, non. Là, on a un trou d'air. Et d'ailleurs, on le reconnaît honnêtement chez Red Bull, tant du côté de Christian Horner que d'autres responsables. On en est peut-être à rappeler ce qui est incroyable. Daniil Kvyat, le pilote russe, qu'on a chassé deux fois de la filière quand même.
Ouais.
Donc là, c'est un constat d'échec, on peut le dire. Je n'ai rien contre lui, bien au contraire. Alors, tout plein de bruit complètement démentiel ont circulé. On a même parlé de certains pilotes français qui intégreraient cette filière alors qu'ils n'étaient pas à l'intérieur. Bref, il y a un vrai problème actuellement en Formule 1 qui ne touche pas que Red Bull, qui touche Mercedes, et on y reviendra un petit peu plus tard, parce que malheureusement des pilotes de talent, d'expérience ne trouvent pas de baquet en Formule 1.
Voilà donc pour le marché des transferts, on y revient dans quelques instants avec notre invité Fred Vasseur, le patron de Sauber, et avec toi dans ton coup de volant. Il y a une autre info qui est sortie ces derniers jours, Jean-Luc, concernant la F1. Ça n'est pas neutre, ça n'est pas anecdotique, c'est le calendrier de la saison prochaine avec énormément de conflits avec d'autres disciplines.
Alors on est un peu habitué à ce que la Formule 1 piétine littéralement les autres disciplines. Ça fait des années que ça dure. Chaque année, on nous dit non, ça va s'arranger. Il faut dire qu'avec 21 dates, maintenant, c'est un petit peu compliqué. Alors, dans le désordre. Hein. On va parler du WEC, le WEC, tu sais, qui est une épreuve du championnat du monde d'endurance avec l'épreuve mythique du Mans. Eh bien là, on a carrément mis le Grand Prix en face de l'épreuve du WEC au Japon. Tu vois, donc là, c'est complètement dément.
Il y a un conflit avec le Mans cette année ?
Alors, il y a un conflit avec l'épreuve du Japon, l'épreuve de WEC au Japon.
Hein. Mais pas avec le Mans.
Non, pas avec le Mans, pas avec le Mans. Donc, Suzuka au Japon, ça doit être le 13 octobre. Et là, on avait annoncé du côté du WEC le calendrier depuis plusieurs semaines. Ben, on se retrouve face à un problème. On a bien compris que c'était pas la F1 qui y allait céder, a priori. Oui. Donc, c'est le WEC qui va devoir changer. Même problème, donc, du côté des États-Unis. Alors, c'est un petit peu après. C'est, on passe du 13 octobre au 3 novembre, pour être précis, 3 semaines plus tard. Les États-Unis, Austin, eh bien, là aussi, on l'a modifié. On est le 3 novembre. Il y a une épreuve de NASCAR très importante qui se déroule pas très loin. Donc, là aussi, on a commencé à râler. Il n'y a pas d'autre mot pour ne pas dire plus en disant c'est comme d'habitude avec la F1. Ils font ce qu'ils veulent et tous les autres doivent se plier. Donc, là, il y a un vrai souci. Nos amis de Liberty Media, ils font ce qu'ils peuvent, mais pour le moment, c'est pas terrible. Alors, il faut rappeler que ce calendrier sera entériné par le Conseil mondial de la FIA le 12 octobre.
Et c'est un problème qui risque de se poser de plus en plus, puisque Liberty Media l'a dit, ils veulent davantage de grands prix sur une saison. Si on arrive à 25, 26 grands prix, nécessairement, il y aura davantage de conflits. Mesdames et messieurs, il est 13h12 et Jean-Luc Roy n'est pas content.
RMC Motors, le coup de volant.
La cause de ton courroux, Jean-Luc, c'est la situation d'Esteban Ocon, qui risque fort, très fort, de se retrouver piéton la saison prochaine.
Écoute, Louis, je vais répondre sans langue de bois, comme d'habitude, bien sûr, à ce lancement. Je dirais d'abord que moi, j'en ai marre aussi de râler contre la Formule 1 et contre les errements de la Formule 1, qui sont nombreux. On va parler de celui-là aujourd'hui, mais il y en a tellement, tu le sais. Il faut sauver le soldat F1, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est une folie. Là, la F1 fait fausse route, et depuis plusieurs années. Alors, on en vient maintenant à Esteban Ocon, qui est un pilote, effectivement, unanimement reconnu. Il a même fallu que ses pairs, rien moins que Lewis Hamilton, 4 fois champion du monde, et Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde, en conf de presse, quand il s'est retrouvé avec eux, lui disent, tout le monde a vu sur les réseaux sociaux ce fameux entretien un petit peu au pied levé sur un escalier à Spa où Vettel dit à Ocon, alors t'en es où, tu fais quoi? Il dit, tu sais bien ce qui s'est passé, quoi? On rachète l'écurie. Ah bon? Et alors toi? En gros, il passe à la fenêtre, donc il est obligé de quitter cette équipe Force India où il fait des merveilles aux côtés de Sergio Perez. Il est dans la filière Mercedes, on se dit, moi le premier, j'assume. Je me suis dit, Mercedes va lui trouver quelque chose. On connaît la manière de fonctionner des constructeurs, surtout quand on a maintenant une facture de plus de 20 millions de dollars par an, ce qui est totalement débile. Ça, c'est encore un autre problème de la Formule 1. On se dit, une petite réduction de facture, on discute avec l'équipe de combien, de 4, 5 millions, un peu plus, un peu moins, et puis on va placer notre pilote. Non, on voit que même une équipe comme Mercedes, avec là aussi une filière de jeunes pilotes, pour accéder à la Formule 1, puis là, c'est un peu plus qu'une filière, puisqu'Ocon, maintenant, c'est un pilote de F1 reconnu, on n'arrive pas à lui trouver un baquet. Alors, il est la victime collatérale parce qu'il avait des contacts avec Renault, tu vas me dire, mais quel lien entre Renault et Mercedes? Mercedes était prêt à le prêter, un peu comme Carlos Sainz Jr. avait été prêté là aussi à Renault. Et puis chez Renault, et je comprends très bien, moi, Cyril Abitboul a dit, nous, on en a marre aussi des pilotes prêtés. Maintenant, on veut des pilotes à nous pour les faire grandir et travailler pour qu'ils restent dans l'équipe. Donc le problème est là, donc exit. Puis en plus, Ricardo a signé dans l'intervalle. On a dit, McLaren, même si c'est pas une équipe Mercedes, McLaren va peut-être pouvoir accepter Ocon. Et du côté de Brown, on dit pareil. On dit, nous, c'est un pilote Mercedes. Alors du coup, Mercedes dit, on est prêt à s'effacer, on sait plus quoi faire. Est-ce qu'on va le voir? Le seul baquet, malheureusement, aujourd'hui, il peut y avoir encore des surprises, ça peut être Williams, parce que c'est une équipe motorisée par Mercedes.
Dernier au classement du championnat.
Mais on espère que Williams va rebondir. Et puis, Williams est en difficulté financière grave. Donc, effectivement, Mercedes a, je dirais, potentiellement l'atout. Maintenant, on parle de Kubica, comme tu le sais, il y a quand même aussi Sirotkin qui est là, qui apporte beaucoup d'argent. Le problème d'Ocon n'est pas réglé. Si jamais Ocon n'est pas sur la grille de départ en Formule 1 en 2019, c'est un scandale absolu.
Juste avant d'accueillir notre invité qui connaît bien Esteban Ocon, c'est la mi-temps au rugby entre Grenoble et Pau, Jérémy Donzet.
Pau qui mène 14-6, coup de froid ici au Stade des Alpes. 2 essais côté de la section paloise. Jesse Mogg à la 14e, Julien Blanc à la 35e, à chaque fois transformé par Tom Taylor. Et 2 petites pénalités pour Franck Pourteau côté grenoblois. Et Pau qui mène donc de 8 points, le plus gros écart de cette rencontre, 14-6 face à Grenoble.
Merci Jérémy, on te retrouve pour la seconde période. Voici un homme qui connaît bien Esteban Ocon, c'est l'ancien patron de Renault, aujourd'hui à la tête de l'écurie Sauber. Bonjour Fred Vasseur.
Bonjour.
Ça va bien, merci d'être avec nous.
Oui, tout va bien. Un week-end off.
Un week-end off, oui, c'est vrai, vous en profitez, vous n'en avez pas beaucoup. Qu'est-ce que ça fait pendant un week-end off, d'ailleurs, un patron d'écurie de F1, par parenthèse?
Ça fait comme vous quand vous n'êtes pas à la radio. Ça se repose un petit peu, là, parce qu'on a un enchaînement de courses qui arrive qui est pas mal. Et Non, je profite un peu du temps avec ma famille.
Fred, on parlait à l'instant d'Esteban Ocon avec Jean-Luc. Quel est votre sentiment sur l'absence probable, de plus en plus probable, d'Esteban Ocon sur la grille en F1 la saison prochaine?
Oh bah c'est sûr que Esteban, il a eu un parcours exemplaire, hein, que ce soit dans les junior series, pour GP3, F3, il a gagné un peu toutes les disciplines. Il est arrivé en F1, il a eu très bons résultats face à Sergio Pérez, qui est quand même une référence. Après, je pense que c'est un peu un concours de circonstances, parce qu'il est, il y a un peu un embouteillage chez Mercedes, avec Bottas qui démérite pas, avec Hamilton qui fait un travail exceptionnel, et qu'ils n'ont pas tant de sièges que ça. Et puis à la fin, comme il y a deux équipes motorisées Mercedes, que ce soit Williams d'un côté, Force India de l'autre, qui ont des difficultés financières et qu'on en ont toujours, et qui cherchent aujourd'hui plus à survivre ou à trouver des sources de financement que des résultats immédiats, je pense que la situation est compliquée. Mais quel que soit l'avenir, je pense que même si l'année prochaine il a une saison sans, je pense qu'il restera dans le giron Mercedes et qu'il aura des chances de revenir. Des pilotes qui ont une année sans, il en a eu et ça ne les a pas empêchés de refaire de la F1 après.
Salut Fred, c'est Jean-Luc. Je te remercie tout d'abord d'être avec nous et de prendre quelques précieuses minutes. On va essayer d'être court et synthétique comme tu l'es d'habitude. Écoute, c'est quand même un paradoxe, quoi. Quand on a une équipe comme Mercedes qui domine le championnat, comme c'est le cas actuellement, qu'on a des pilotes du talent d'Esteban. Alors, pour être clair et parler du statut de Sauber, si tu le veux bien, on sait, et tu l'as dit, hein, ça n'est pas un secret, que pour ce qui concerne l'équipe Sauber, Ferrari a le droit de choisir un des pilotes. Hein, c'est ça, puisque quelque part, on peut considérer que c'est un lien filial qui vous unit. Est-ce que c'est comparable, à ton avis, entre ce qui se passe entre Toro Rosso et Red Bull pour Sauber et Ferrari?
Non, Toro Rosso, non. Red Bull, Toro Rosso, l'équipe appartient directement à Red Bull. Donc là, ils ont la main mise sur les deux sièges, sur les ingés, sur le... stratégie moteur, vraiment sur tous les aspects de la gestion de Toro Rosso. Dans notre cas, on a un accord de partenariat avec Alfa Romeo, un accord un supply agreement pour le moteur avec Ferrari, et on a un poste ouvert sur les deux sièges. Ça nous permet, c'est un peu un avantage mutuel, parce que ça nous permet d'avoir accès à des jeunes pilotes très performants. Et puis eux, ça leur permet de pouvoir les placer, mais ça n'a rien à voir avec la relation Red Bull-Toro Rosso.
Justement, Fred Vasseur, vous aussi, vous avez chez Sauber un mercato, un marché des transferts à gérer. Aujourd'hui, vos deux pilotes, ce sont Marcus Ericsson et Charles Leclerc. Est-ce que ce seront les deux mêmes la saison prochaine?
Bah, l'avenir nous le dira.
Oh non, pas vous. Ça, vous n'avez pas le droit. Non, pas vous, Fred. On se connaît bien, vous n'avez pas le droit.
J'ai même le droit à un joker.
Non, on avait dit pas de joker.
Alors, Fred, quand? Moi, je vais poser une question. On saura quand, à ton avis?
Oh, je pense que là, ça se précise. Et d'ici Singapour, on aura une vision beaucoup plus nette du marché. Mais, ça risque de bouger un petit peu.
Charles Leclerc chez Ferrari, ça vous fait plaisir?
Ah bah, en tant que patron de Sauber, si c'est l'option qui est retenue par Ferrari, je vois partir Charles, qui a été un des éléments importants de la reconstruction de l'équipe, et ça je mesure la perte pour Sauber. Après, plus personnellement, c'est, je pense, une suite normale pour Charles. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je le verrai partir aussi avec plaisir, parce que quelque part, c'est une forme de réussite pour lui, et puis même une réussite pour nous, hein, puisque c'était le projet initial. Ouais. Donc voilà. Et pour une fois, si ça venait à se passer comme ça, ce qui n'est pas écrit, je regarderai toujours ça d'un œil.
Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Il a à peine 20 ans, Charles Leclerc.
Oui, trop tôt, trop tard, je sais pas. Si vous aviez proposé ça à Esteban l'année dernière d'aller chez Mercedes, est-ce que ça aurait été trop tôt quand on voit ce qui se passe après? Enfin, le problème, c'est qu'on... dans ce marché de jeunes pilotes, il y a toujours des gamins qui arrivent, qui gagnent en F2, qui gagnent en F3, qui sont sous les feux de la rampe en arrivant en F1. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y en aura un autre l'année prochaine. Il y aura un autre vainqueur de la F2 et un autre vainqueur de la F3, et que quand les occasions se présentent, il faut les saisir.
Pardon Fred, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, enfin on en a parlé tous les deux maintes et maintes fois, il y a un vrai problème en Formule 1, quoi, le fameux cost cap, ce qui permettrait de créer des équipes.
Comme des...
Non mais
du con, mais
mais moi ça me gêne pas personnellement. Non mais
c'est pas moi qui l'ai dit.
Ça existait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il y avait un championnat F3 en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Il y avait 4 vainqueurs par an et puis il y avait pas, il y avait 20 places en F1. Alors c'est sûr que la F1 il y a plus de blessés. Mais même s'il y en avait 26, le problème vient pas de là, parce que de toute façon, ce que Esteban aujourd'hui, on lui proposerait d'aller rouler dans une équipe qui viserait entre 22 et 24, il dirait pas. Donc il a un standard d'équipe, et je pense qu'il a plus intérêt à rester en giron Mercedes et il a patienté 12 mois si ça venait à être le cas. Mais après, quand les occasions se présentent, je pense qu'il faut sauter dessus et pas se dire peut-être qu'il y en aura une autre mieux l'année prochaine.
On va dire si, mais effectivement, ce contrat Mercedes qu'a Esteban et qui devrait lui profiter, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un handicap par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure? C'est-à-dire qu'il a été barré en partie chez McLaren?
Oui, mais on ne peut pas dire ça. Je pense qu'Esteban est tout à fait conscient que sans Mercedes, comme dirait quelqu'un qui est proche de lui, il pourrait travailler au McDo d'Evreux. Il sait très bien que Mercedes aujourd'hui lui a financé sa carrière, sa saison en DTM, son arrivée chez Manor, ses premières saisons en F1, qu'ils l'ont supporté depuis le début à fond, comme un pilote comme Charles, c'est pareil. Je veux dire, ces pilotes-là, ils savent très bien ce qu'ils doivent aux constructeurs. Contrairement à d'autres en F1, des noms que j'entendais avant de venir à l'antenne.
On va pas nommer.
Absolument aucune fortune personnelle. Donc, je veux dire, ils doivent ça à leur talent et au fait qu'il y ait des constructeurs qui aient cru en eux.
Oui, mais justement.
C'est sûr qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une forme de retour de bâton là-dessus. Si un Charles qui est sous contrat avec Ferrari, je le vois pas rouler une année chez Mercedes et vice versa pour Esteban.
Oui, mais est-ce qu'on touche pas à la limite d'un système là? La question est vaste.
Oui, c'est sûr, c'est une limite. Mais si on fait pas ça, il roule pas du tout.
Oui.
Donc, je pense que tous ces pilotes-là, ils sont ravis d'avoir été pris par Mercedes et qu'Esteban, dans sa tête, il se dit certes, aujourd'hui, le fait d'avoir un contrat Mercedes m'empêche de rouler chez Renault. Et encore que, je pense que Renault était demandeur il y a quelques mois. Mais
vous auriez pu vous-même le faire venir quand vous étiez à la tête de Renault, Fred?
Oui, il avait un rôle chez Renault la première année. Hein,
oui, ouais, c'est ça, la première année.
Il avait 6 ou 7 FP1, je crois, de tête.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'est compliqué, ça, parce qu'on ne peut pas se partager un pilote. Le pilote, c'est un élément majeur dans le développement technique, donc il est au courant de toutes les options prises, de toutes les stratégies. Et si on dit que ce pilote-là, dans 10 mois, il va retourner chez un concurrent, c'est sûr que c'est compliqué.
Fred Vasseur, le patron de Sauber et l'invité de Motors, Jean-Luc.
Oui, une question positive là, Fred, enfin on n'a que ça, mais quelles sont les qualités, tu le connais par cœur, les qualités d'Esteban, si tu dois comparer à d'autres jeunes pilotes? Je sais que c'est toujours délicat, mais qu'est-ce qu'il a de plus que d'autres, ou de moins, ou les domaines dans lesquels il doit progresser, puisque tu le connais par cœur?
Il est plus grand.
Sérieusement, oui.
Il
a un bon retour technique.
On va à peu près tout gagner dans les disciplines de jeunes, que ce soit Charles ou Esteban. Mais après, je pense qu'Esteban, en plus, il a un avantage. Moi, je trouve qu'il a toujours été un super bon racer, qui est toujours au bon endroit quand il faut y être sur la piste et qu'il sent très bien ça. Donc je pense que même si là, c'est compliqué les quelques mois qui viennent, la vie est longue, hein, il reviendra.
Pour l'instant, Fred, vous pointez à la 9e place du championnat constructeur avec votre écurie Sauber. Vous avez terminé 8 courses dans les points. Est-ce qu'il vous satisfait ce bilan provisoire alors qu'on a dépassé la mi-saison?
On veut toujours plus, hein, mais j'essaye de me souvenir d'où on était il y a un an. On était dernier, archi-dernier, à une seconde et demie de l'avant-dernier. Je trouve qu'on a effectué un bond en avant en termes de performance énorme, en termes de reconnaissance aussi dans le paddock. Il y a un an, quand on recrutait, on recevait pas de CV, et quand on cherchait des pilotes, il n'y en avait pas beaucoup qui venaient taper à la porte. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente. On a eu l'arrivée d'Alfa Romeo qui a relancé le projet. On a des pilotes que je pense une partie de la grille nous envie. Enfin, voilà, donc je pense qu'on est dans une toute autre dynamique. On a Simone Resta qui est arrivé comme directeur technique il y a deux mois, qui prépare la voiture de l'année prochaine. Enfin, on a une dynamique où on peut enfin regarder ce qui se passe au milieu de tableau beaucoup plus sérieusement que l'année dernière où c'était juste un rêve.
Fred, une double question qui porte sur l'autre pilote, Alfa Romeo Sauber, c'est Marcus Ericsson. On a le sentiment, enfin j'ai le sentiment, qu'il a été un petit peu tiré par le haut justement avec l'exemple de Charles et que lui aussi, il s'est démontré avec le matériel dont il disposait dans cet environnement-là, qu'il valait peut-être mieux que ce qu'il avait fait jusque-là, première question. Et deuxième, j'ose la poser, est-ce que Esteban Ocon, puisqu'en Formule 1 on voit tout, hein, est-ce que si jamais il parvenait ou il devait se défaire de son lien avec Mercedes, ça pourrait être une opportunité pour Sauber?
Alors déjà Marcus, la première question, ouais, c'est des pilotes qui sont souvent sous-estimés quand ils font quelques années fond de grille, parce qu'on a du mal à quand on est dans une voiture qui est à une seconde de l'avant-dernier, on a du mal à briller. Mais je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui a énormément progressé sur la saison. On le voit d'ailleurs sur les 4-5 dernières courses. Oui. Il est vraiment pas loin de Charles, donc je pense que ça c'est à mettre à son actif. C'est un bon team player, c'est quelqu'un qui s'implique bien techniquement, un bon état d'esprit, voilà. Donc ça fait aussi partie du jeu. On sait très bien aujourd'hui qu'on n'arrivera pas à tirer, et pas que financièrement, Vettel Hamilton. Hein, donc voilà, faut jouer un peu avec ça. Et puis Marcus, je pense que pour nous, ça a été un des piliers de développement, ça a été la continuité dans l'équipe, parce que c'est un point important. Et l'année dernière, il a plutôt fait du meilleur travail que Pascal Wehrlein, qui pourtant était, qui était hyper réputé et qui avait la place de numéro 1 dans la filière Mercedes il n'y a pas très longtemps.
Une petite question sur Esteban, alors tu y échapperas pas. Ah bah oui, il s'est dit il va l'oublier, bah non.
Non, je l'avais pas oublié.
Ah bon.
Je l'avais pas oublié.
Alors
c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sûr que dans le monde idéal, s'il n'était pas sous contrat avec Mercedes, why not, mais... En même temps, je ne sais pas si pour lui, ça a du sens de quitter la famille Mercedes, où il est quand même bien implanté, bien impliqué, qu'il a des relations avec tout le monde, et que dans 6 mois, ils auront peut-être besoin d'un pilote, quoi. Donc,
on ne sait jamais.
Voilà, c'est une décision qui lui appartient, à lui et à son management.
Voilà. Ouais. Merci beaucoup,
Fred Vasseur, d'avoir été l'invité de Motors en direct. On vous laisse profiter de vos proches et de votre week-end. Un week-end off, ça n'arrive pas si souvent. La semaine prochaine, dimanche prochain, Grand Prix de Singapour, ça sera à suivre à 14h10 en direct sur RMC. Avec toi, Jean-Luc, évidemment, avec Adrien Tambay, avec Lucas Vinois, avec toute la Dream Team. Merci encore, Fred Vasseur. Dans un instant, la moto au programme de Motors, 13h28 sur RMC.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h31 sur RMC, merci d'être avec nous. Dans un instant, on parle moto à une demi-heure du départ du MotoGP de Saint-Marin. D'abord, c'est reparti au rugby entre Grenoble et Pau, Jérémy Donzet.
Ouais, 42e minute ici au Stade des Alpes, et toujours Pau qui mène 14-6, 8 points d'avance, 2 essais transformés pour les Palois, Jesse Mogg et Julien Blanc, contre 2 pénalités de Franck Porto pour les Grenoblois.
Merci Jérémy, et donc tout de suite la moto.
RMC Motors.
190, 150 mètres, droite 120.
Le briefing.
Dans une demi-heure, le départ du Grand Prix Moto de Saint-Marin, ça sera à suivre en direct dans l'Intégral Sport avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Louis, salut Jean-Luc.
Salut Benoît.
Ça nous a manqué le MotoGP.
Ça nous a manqué.
Oui,
ouais,
ça nous manque toujours.
On a été frustrés.
Et on a raté une marche à cause de la pluie, on a glissé.
Dans quelques instants, nous serons avec Eric Mahé, le manager de Fabio Quartararo, qui montera dans la catégorie Rennes la saison prochaine. Mais d'abord Benoît, la grille de départ du Grand Prix de tout à l'heure.
Avec une pole record pour Jorge Lorenzo, c'est vraiment l'homme en forme en MotoGP dans cette spécificité. La Ducati sera donc en pôle avec le record du circuit établi, 1,31629 millième. Magnifique tour de Jorge Lorenzo qui devance Jack Miller et Maverick Vinales. Ça c'est la première ligne. Deuxième ligne avec Dovizioso, Marc Marquez et Cal Crutchlow. Troisième ligne avec Rossi, Petrucci et Johan Zarco qui sera neuvième. Mais je ne sais pas si vous avez vu les images des qualifications. On s'est encore régalé, énormément de spectacles. Deuxième run de Marc Marquez, il tombe directement, incroyable, il se relève, incroyable. Il se met à courir pour rejoindre les stands, il monte tout de suite sur sa moto de réserve et il repart pour un troisième run. C'est ça aussi le MotoGP, du spectacle. En tout cas, Marc Marquez a encore chuté, mais il a su réagir et c'était assez impressionnant au niveau des images.
Il est hallucinant, et tu as vu les images, il essaie encore de se rattraper avec le coude, hein. Il incroyable. Glisse pendant au moins 30 mètres incroyable. Sur le coude et le genou. On se dit, il va pas le refaire comme au dernier Grand Prix, on s'en souvient, en Espagne, où il avait fait ça. Ben là, il a pas réussi, mais instantanément, mais alors, comme un diable sorti de sa boîte,
il s'est mis à courir 500 mètres pour aller au stand.
Incroyable. Rarement vu ça.
Ouais.
La suite de la grille, Benoît?
La suite de la grille, écoute, avec Alex Rins qui sera dixième devant Dani Pedrosa et Franco Morbidelli. Ce qu'on peut retenir, évidemment, c'est la dernière place du petit nouveau, le français, Christophe Ponson, dont on va parler d'ici quelques secondes.
Et maintenant, même en effet, Benoît, puisque donc il y a un nouveau pilote français en MotoGP, c'est une pige, hein, comme on dit dans notre métier.
Exactement.
Une pige d'un week-end. Il s'appelle Christophe Ponson et il est arrivé, Benoît, en remplacement de Tito Rabat.
Ouais, c'est un petit peu l'histoire d'un rêve qui pourrait se transformer en cadeau empoisonné. Rappelons qu'Avintia cherchait un remplaçant à Tito Rabat, victime d'une fracture à la jambe à Silverstone il y a 15 jours. Le propriétaire de l'écurie a donc multiplié les rendez-vous avant de trouver un accord avec l'entourage du jeune français de 22 ans. Ce choix fait polémique, car le pilote n'a pas les références requises, mais les explications sont simples. La famille de Christophe Ponson est prête à investir beaucoup d'argent pour qu'il réalise son rêve. On rappelle qu'il est seulement engagé dans le championnat d'Espagne en catégorie 600, et même s'il a fait quelques apparitions dans le mondial Superbike, il n'a jamais fait mieux que 10e, donc ce n'est pas encore un top pilote. C'est un jeune pilote de 22 ans, mais il n'a pas encore de référence. Et les essais de vendredi ont confirmé ses doutes. Ponson pointe à 6 secondes des meilleurs chronos, un temps qu'il placerait en milieu de grille de Moto2, la catégorie inférieure, ce qui est quand même terrible pour lui. Lui, il s'est dit surpris en fait par la rigidité de la moto. Ça s'est un peu mieux passé en qualif hier, puisqu'il a gagné 2 secondes au tour, un chrono qui lui permet de descendre sous les fameux 107% du meilleur temps, le minimum requis pour participer au Grand Prix. Forcément, ce GP de Saint-Marin, il sera très compliqué à gérer pour lui, mais soyons honnêtes, difficile de lui reprocher d'avoir saisi cette superbe opportunité de devenir, le temps d'un week-end, un pilote MotoGP.
Ça, c'est sûr. Évidemment, de son point de vue, on ne peut que le féliciter d'être monté jusqu'au MotoGP. En revanche, Benoît, dans le paddock, les réactions des autres pilotes sont mitigées.
Oui, alors on a des pilotes très virulents comme Jack Miller et Cal Crutchlow. Miller reproche en fait à Ponson d'avoir détruit un de ses tours de qualification. Il n'allait pas assez vite, du coup, il était obligé de passer dans l'herbe pour éviter le pilote français. Crutchlow, lui, trouve tout simplement la décision de l'équipe Avintia stupide et incohérente. Il y a eu plus de compassion pour des pilotes stars comme Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso qui en veulent eux aussi avant tout à l'équipe Avintia et pas forcément aux pilotes français. Et puis les stars du paddock comme Marc Marquez et Valentino Rossi ont tout simplement reconnu qu'ils ne connaissaient pas ce jeune pilote français. Ils n'en ont jamais entendu parler du jeune Lyonnais et eux, ils prônent plutôt pour un changement de réglementation qui interdirait justement ce type de manœuvre et qui privilégierait des pilotes qui débarquent avec des références au niveau du MotoGP.
Et sur ce sujet-là, Jean-Luc, nous voulons ton avis. Parce qu'il y a deux choses intéressantes. D'abord, un pilote qui arrive et qui peut représenter un danger, à la fois pour lui-même et pour les autres.
Bien sûr.
Et puis aussi un pilote qui arrive, non par le fait de ses références, mais grâce à ses moyens.
Écoute, pour répondre à ta question, je vais d'abord dire, comme d'habitude, j'ai tellement de respect pour les pilotes en général, quelles que soient les disciplines, mais surtout pour les pilotes du MotoGP et des Grands Prix Moto en général, qui sont pour moi des héros, je le dis et je le répète. Donc ceci posé, effectivement, c'est un cadeau empoisonné. Moi non plus, j'avoue que je ne le connaissais pas, parce qu'il n'a pas de palmarès encore à la hauteur de l'événement auquel il participe. Alors comme tu le disais aussi, on le dédouane tout de suite à 22 ans, évidemment, quand on t'offre comme ça le Graal, c'est-à-dire accéder à la catégorie la plus difficile avec
c'est
les machines.
C'est pas refusable.
Ça n'est pas refusable. Lui, ça n'est pas possible. Maintenant, c'est pas raisonnable, je le dis, voire pire, de la part de ceux qui l'ont poussé à faire ça. Il faudrait de l'apprentissage, il faudrait des séances d'essai. Je vais citer le cas de Randy Depunier. Randy qui est un copain qui était pilote de Grand Prix, qui est pilote d'essai de développement KTM maintenant. Là, c'est nouveau puisqu'il y a eu des pilotes blessés également. Randy a refusé, lui, logiquement. Il n'a pas pris part à un Grand Prix depuis 3 ans et il aurait pas été, je peux te dire, à 5 secondes et demie des temps, ni à 3 secondes du dernier.
Il nous l'a dit la semaine dernière, c'est notre invité, il nous l'a dit.
Mais oui.
Moi, j'ai refusé, effectivement, de prendre la place qui a été prise par Loris Bas.
Donc là, c'est déraisonnable, c'est dangereux pour lui d'abord, c'est dangereux pour les autres, parce que, en course, on peut calculer, à mon avis, au bout d'une dizaine de tours, il prend un tour, Donc ça va être une chicane mobile au début.
Exactement.
Il faut presque lui souhaiter, soit d'avoir un problème technique, surtout pas de chuter, mais d'avoir un problème technique, ou de se rendre compte qu'il est pas à sa place. Il aura fait une belle expérience, il faut la recommencer, mais autrement. Ça, c'est dangereux.
On parlait tout à l'heure avec Fred Vasseur, et en préambule, de la question du talent par rapport aux moyens dans le monde de la Formule 1. Est-ce qu'avec un exemple comme celui-ci, Jean-Luc, la moto n'est pas en train de se F1-iser?
Indubitablement, oui, je réponds à ta question, puisqu'on n'a pas cité les noms et on ne va pas humilier ces pilotes-là. On sait très bien qu'il y a des vrais pilotes payants en Formule 1. Bon, ils ont tous du talent, encore une fois, mais est-ce qu'ils ont leur place sur une grille de F1? Bah, la réponse est non, évidemment. En tout cas, il y en a tellement d'autres qui auraient leur place.
Salut, bah, Lance Stroll.
Bah, voilà.
On l'embrasse.
À moto, c'est pareil. Là, il est évident. Alors, on a, là, alors, pour le coup, on a augmenté le plateau. Tu sais, à un moment, il y avait seulement 20 motos, voire même 18, si mon souvenir est précis. On est remonté à 26 avec l'arrivée de Christophe Ponson. Et on sait qu'il y a des blessés, malheureusement, à moto, et des blessés graves, comme Tito Rabat, qui a donc eu la jambe fracturée à trois endroits. Enfin, il est pas là pour un moment. Il y en a plein d'autres. Les infirmeries à moto, malheureusement, elles sont souvent pleines. Mais pour autant, je crois qu'il y avait des pilotes. Alors, on peut citer Loris Baz, évidemment. Loris Baz qui, lui, aurait dû rouler en Bien Grande-Bretagne sûr. Si ça avait été le cas, s'il y avait eu un Grand Prix. Donc voilà, Loris, bah, il était en Grand Prix l'an dernier. Il avait parfaitement sa place, c'est peu de le dire. Donc voilà, il y a peu de raison, et t'as raison. Ça, c'est un mauvais exemple à suivre. Pour la moto, il faut, il n'y a pas de super licence, hein. Il faut le dire, oui. Il faut le préciser. Alors qu'en F1, ça ne serait pas possible. Et ça, c'est très bien. Et là, on rend hommage à la F1 parce que la super licence, eh bien, on l'obtient quand on a des résultats dans les disciplines inférieures, on totalise des points, il en faut 40, ce qui permet de filtrer et d'éviter d'avoir des gamins sans expérience qu'on mettrait au milieu d'un paquet de fous furieux. Voilà, c'est simple.
13h38 sur RMC, on accueille notre invité Éric Mahé, le manager du jeune français Fabio Quartararo. Bonjour Éric.
Bonjour à tous.
Merci d'être l'invité de Motors en direct. Le Moto 2, c'est terminé à Saint-Marin, ouais. C'est tout chaud. Jean-Luc, le résultat de Fabio Quartararo?
Eh ben, c'est super parce qu'il finit septième, donc c'est génial. Derrière Lorenzo Baldassari et devant Brad Binder. Donc là, il a haussé le ton manifestement et il était impeccable. Bon, après il y a des petits paquets qui s'étaient formés, mais bon, il fait un beau Grand Prix.
Éric Mahé, cette septième place.
Sincèrement, un peu déçu parce qu'on espérait un podium. Il avait un gros rythme aux essais, Fabio. Il y a eu des problèmes d'accélération, donc on n'a pas décortiqué tout ça encore, mais il s'est plaint de tous les endroits où il y avait besoin de relancer la mécanique. Il se faisait larguer dans ces endroits-là et il était plutôt bien dans les changements de direction. Donc il y a une analyse à faire parce que sincèrement, je le voyais plus 2, 3, 5 que 7. Après, bah, ça fait des points et il n'y a pas de souci particulier, mais sincèrement, on espérait un peu plus.
Ouais, ouais, il est à 3 secondes du paquet devant, hein, comme tu l'as vu comme moi, Eric. Alors, écoute, on se connaît bien, on va pas tourner autour du pot non plus. Tu t'es occupé de grands pilotes, tu as été pilote toi-même. Alors, on va aborder le cas de Fabio, puisque Fabio, il a eu une trajectoire absolument fantastique, et on s'en souvient, très très jeune, championnat d'Espagne de moto, titre, etc. Résultat, il accède au Moto 3 et de par sa taille et peut-être son style de pilotage, est-ce que je crois pas que tu t'occupais de lui à cette époque-là, mais tout le monde disait, il s'exprimera pleinement dans les disciplines les plus puissantes et avec des motos un peu plus volumineuses et plus performantes. Tiens, je vais faire la comparaison avec Jacques Villeneuve. Tu vois, carrément, je compare avec un champion du monde de Formule 1 parce que Jacques, il ne s'est exprimé que quand il a eu des motos puissantes. Est-ce que tu penses que c'est le cas de Fabio?
Je pense que c'est le cas. Après, il aurait pu faire mieux en Moto 3 quand même. C'est pas très grave, on sait que c'est des catégories de passage et quand on a un gros talent comme Fabio, il n'y a pas trop de questions à se poser. Après, bon, pour répondre à votre question, moi je suis arrivé justement à ce moment-là, au moment du switch entre le Moto 3 et le Moto 2. Donc c'est moi qui gérais son arrivée chez Pons, c'est moi qui gérais son arrivée chez Speed Up et maintenant son arrivée chez Petronas en MotoGP qui constitue une grosse, grosse opportunité pour lui.
Alors, on arrive au MotoGP justement. Comment se sont fait ces tractations? Quelles sont les qualités que tu as mis en avant pour Fabio? Est-ce que là aussi, mais j'ose te poser la question, hein, je connais la réponse, mais on ne grille pas les étapes. C'est vrai qu'il commence à marcher très très bien cette année en Moto 2. Est-ce qu'il aurait pas fallu, tiens, à la faveur d'un ou comme un Johann Zarco, lui faire encore une petite saison en Moto 2 pour qu'il soit vraiment parmi les meilleurs, voire champion du monde?
Oui, bah alors ça, c'est la question qu'on s'est bien évidemment posée. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans ce genre de décision. Faut savoir que tous les contrats en ce moment, ils sont signés principalement pour 2 ans. Et ouais. Si on n'y allait pas l'année prochaine, il aurait fallu attendre 2 ans de plus. Au-delà de ça, l'année prochaine, on change de mécanique, ça passe chez Triumph. La compétitivité de chacun, on la connaît pas. Speed Up est un petit team. Et moi, j'étais un peu inquiet qu'ils mettent plus de temps à mettre tout ça au point, puisqu'ils ont 2 pilotes sur la piste. Et puis, au-delà de tout ça, Yamaha, Petronas, le Sepang International Circuit, sincèrement, c'est une super opportunité. Donc, une fois que tout ça a été pesé, on n'a pas douté très longtemps. Après, le cheminement des choses. Bah, en fait, ça a commencé en septembre dernier. J'avais plusieurs options pour Fabio en Moto 2. Et son team actuel, Ponce, donc Cito Ponce, demandait d'avoir des droits sur Fabio au cas où il passe en MotoGP.
Ah oui,
moi, d'accord. J'ai dit non. Et chez Speed Up, c'était pas le cas. Donc la première étape a été d'intégrer dans le contrat une clause qui lui permettait de sortir de ses 2 ans de contrat en cas de MotoGP. Sincèrement, en début d'année, je pensais pas du tout au MotoGP, mais j'avais une clause qui allait échoir au 31 juillet. j'ai regardé un peu ce qui restait. Il y avait des doutes sur le team VDS. Mmh. Il y avait ces deux Yamaha qu'on savait pas où elles allaient aller et comment elles allaient être gérées.
Et oui.
Donc j'ai commencé à rencontrer un peu tous ces gens-là. Bon, chez VDS, c'est fermé, c'est réglé. Les Yam, elles sont passées chez Petronas avec l'entrée de l'ex-entrée d'Aspar Martinez. Mmh. Au début, c'était pour Lorenzo. Après, c'était pour Pedrosa. Tous les gens chez Petronas, c'est des gens que je connais depuis 15 ou 20 ans.
Ouais.
Donc même dans ces périodes-là, on a bien échangé. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est le moment, pourquoi vous ne faites pas un junior team complètement? Mmh. Parce que Pedrosa, sincèrement, il a tellement hésité qu'on peut douter de sa motivation. Donc une dernière saison pour Pedrosa, s'il n'est pas performant, ça ne sert à rien pour personne. L'idée a germé, on s'est retrouvé avec Alex Marquez en face, Baldassari, deux, trois pilotes. Mmh. Et finalement, c'est Fabio qui a été promu, donc c'est super promu.
C'est génial. Éric Mahé, le manager de Fabio Quartararo, est l'invité de Motors en direct sur RMC Jean-Luc.
Oui, on a encore plein de questions justement à te poser. Éric, on sait que le côté technique également du MotoGP prend beaucoup d'importance. Maintenant, les réglages notamment... peu de gens le savent, mais il y a ce fameux système aussi d'antipatinage qu'il faut régler très finement, le développement des pneumatiques aussi qu'il faut adapter, le choix des pneumatiques. Comment est Fabio face à ce challenge technique? Tu le disais, en Moto 2, c'est totalement différent. Les motos d'ailleurs sont plus lourdes, ce que les gens ne savent pas, moins puissantes, c'est une évidence, totalement différente à piloter. Il a déjà fait des essais de MotoGP?
Non, du tout. Ses premiers essais seront au lendemain du Grand Prix de Valencia. Maintenant, sincèrement, je suis pas très inquiet parce que ce qu'il faut pour être pilote, c'est du talent. Il en manque pas. Après, faut pas oublier que les équipes de MotoGP sont des grosses équipes. Il y a 15 personnes, 15 techniciens par pilote, approximativement. Donc, tout ce côté technique est géré plus par le team que par le pilote. Après, Fabio, bien évidemment, il va falloir qu'il s'accoutume à tous ces outils de performance. Il va falloir qu'il les comprenne, mais ça sera pas à lui de les gérer. C'est pas comme quand on est dans un petit team où le pilote a des motions techniques pour aiguiller le team, etc. Sincèrement, je suis pas inquiet. Je pense pas que ça va être facile pour autant. Maintenant, je suis pas inquiet. Je pense qu'il va démarrer relativement vite. Après, en début de saison, forcément, en course, la course, c'est une autre histoire. En MotoGP, bien se qualifier, je dirais, c'est pas l'exercice le plus difficile. Ce qui est très difficile en MotoGP, c'est de rouler dans le dixième pendant 30 tours.
Ça, c'est très difficile. Oui, il s'est quand même passé quelque chose de complètement dingue tout à l'heure dans la course de Moto 2. Benoît, tu peux peut-être nous le raconter et ensuite j'aimerais votre réaction.
Eh oui, évidemment, dans cette course de Moto 2 à Saint-Marin, le coup de folie, en fait, de Romano Fenati, il était à la lutte dans la ligne droite avec Stefano Manzi et il a tout simplement appuyé sur le levier de frein de son concurrent, donc c'est complètement fou ce genre de geste. Évidemment, il a été exclu, drapeau noir, il a dû s'arrêter au tour d'après, mais comment expliquer un tel geste? Ça paraît hallucinant.
Eric,
quand même.
Comment vous expliquez ça?
Les fils se sont touchés dans le carafon, tout simplement. En fait, Mandy sort Fenati perd 2 secondes à lever le bras en l'air, donc déjà ça c'est débile. Et non content de ça, il laisse passer Mandy, il leur double et il lui appuie sur le frein.
C'est fou.
On peut appeler ça un moment d'égarement.
Tu es gentil. Merci beaucoup Éric Mahé d'avoir été avec nous dans Motors.
On te reparlera bientôt.
On se reparle très vite, absolument, pour parler de Fabio Quartararo. Merci beaucoup.
Oui, maintenant ça va être chaud.
Le Grand Prix dans un petit peu moins d'un quart d'heure, à suivre en direct sur RMC.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h48, Motors est de retour jusqu'à 14h. Vous retrouverez ensuite Christophe Cessieux pour l'intégral sport. Mais d'abord, voici toutes les nouvelles de la semaine.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron qui est toujours là. Benoît, l'actu chaude avant le départ du MotoGP dans 10 minutes à Saint-Marin qu'on suivra dans l'intégral sport sont les résultats du Moto2 et du Moto3.
Exactement, avec le Moto3 qui s'est couru en premier avec la victoire d'Alla Porta, voilà la première victoire de sa carrière, l'Italien dans cette catégorie, il devance Jorge Martin et un autre Italien, Fabio Di Gianantonio. Une belle performance et une belle journée donc pour Alla Porta, Jean-Luc.
Ah oui, en plus devant son public, il était fou de joie et c'est vraiment de quelques millimètres. Là-bas, faut dire que là aussi, il y a une grosse chute. Il y a un pilote qui a fait un high side. Heureusement, apparemment, c'est moins grave qu'on aurait pu le croire.
C'est ça, exactement. Donc, victoire de Alla Porta. Et en tout cas, une belle performance pour lui. Ça a été également agité en Moto 2. On en parlait. Oui. On a les images. On va vous les mettre sur rmcsport.fr, évidemment, de ce coup de folie de
Fenati. Et allez-y, parce que c'est hallucinant.
Incroyable.
Vraiment, on peut redécrire cette image. Donc, il y a un pilote. Rappelle-nous son nom, Benoît.
Écoute, c'est Fenati qui est à la lutte avec
Romano Fenati.
Avec Stefano Manzi. Donc, Italiens
deux
à la lutte.
Italiens.
Fenati qui se met au niveau de Mandi dans une ligne droite et qui sort sa main gauche de son guidon et qui appuie sur le levier de frein de son adversaire. C'est complètement hallucinant comme scène.
Ben, il est fou furieux à plusieurs niveaux. D'abord, c'est extrêmement dangereux puisqu'il aurait pu chuter très lourdement avec la roue avant bloquée. Et deuxièmement, là, il y a quand même, c'est l'intégrité de la moto, se permettre ça. Alors, on sait qu'il se frotte parfois en moto GP, on le sait, on l'a vu dans le passé et les meilleurs. On se frictionne un peu. Il peut y avoir des contacts. On va pas se voiler la face, c'est le cas de le dire, avec les commandes, mais c'est pas volontaire à ce point-là. Là, c'est une véritable agression. J'espère vraiment que la fédération, là, va lui mettre quelques grands prix off, parce que là, il faut qu'il paye.
On vous rappelle l'un des rendez-vous de l'après-midi dans 10 minutes, le départ du MotoGP à Saint-Marin. Benoît Boutron, tu commenteras cette course dans l'intégral sport avec Christophe Cessieux. On va passer à l'IndyCar. La grande finale se prépare la semaine prochaine, Benoît, ça sera à Sonoma.
Exactement, ça sera la grande finale. On va attendre ça avec impatience, avec la lutte pour le titre entre deux pilotes, Scott Dixon, le néo-zélandais, et Alexander Rossi, l'américain. Pour l'instant, Dixon a 29 points d'avance au classement général, mais rappelons que les points sont doublés lors du dernier Grand Prix.
Évidemment.
Donc rien n'est terminé dans cette catégorie IndyCar. Et on peut juste rappeler les résultats de la semaine dernière à Portland pour vous signaler qu'on a eu un podium tricolore.
Et oui,
l'un des pilotes préférés de Jean-Luc Roy,
Sébastien
Bourdais, qui a terminé 3e.
Faut pas l'oublier,
course.
Sébastien.
Une course remportée d'ailleurs par un ancien pilote de F1, Takuma Sato.
Et oui, on n'oublie pas Simon Pagenaud aussi, qui a terminé 6e avec le team Penske. Alors, au général, comme vient de le dire Benoît, effectivement, c'est la lutte, c'est entre Dixon et Rossi, on est bien d'accord. Rossi qui avait remporté les 500 miles d'Indianapolis et qui a été pilote de F1 fugitivement.
Oui.
D'ailleurs,
avec Manor.
Je peux vous dire qu'il y en a certains qui penseraient aussi à lui s'il y avait un peu de place parce qu'il est américain et avoir un pilote américain sur la grille, ce serait pas mal.
Ouais.
Juste pour dire que Will Power avec sa Penske est 3e devant Newgarden qui était le champion en titre, Ryan Hunter-Reay qui a été également champion et Simon Pagenaud, on y arrive 6e, Sébastien Bourdais 9e pour le moment en IndyCar.
Un autre pilote de F1, il l'est encore pour quelques mois, Fernando Alonso. Benoît, lui, il a fait de nouveaux essais, c'était à Barber.
Il a fait des essais avec l'écurie Andretti, qui est quand même une top écurie en IndyCar. Donc, autant dire que s'il signe pour la saison prochaine, il pourra jouer pour le titre, en tout cas en IndyCar. Allez, Jean-Luc, c'est fait à plus de 99%, on peut le dire?
Moi, je dis oui. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un pré-accord. Ouais. De toute manière, il avait déjà roulé pour cette équipe Andretti. Bon, rebadgé virtuellement McLaren, parce que je veux bien qu'on la repeigne en orange. D'ailleurs, il se moque un petit peu. Mais c'est Andretti qui va faire le boulot. Chez McLaren, là aussi, où on parle beaucoup et on dit parfois un peu n'importe quoi, on a bien admis que c'était pas un vrai team McLaren qu'on allait créer. On s'était laissé jusqu'au mois de septembre pour dire si oui ou non on est impliqué. Bah, allez, gageons qu'a priori, il y aura donc effectivement une quatrième machine engagée par le team Andretti, et puis qui portera peut-être les couleurs McLaren avec Alonso dedans. Et là, ce sera vraiment un coup de projecteur formidable.
Oui, absolument.
Pour l'IndyCar.
Et est-ce que Fernando Alonso, Jean-Luc, a l'étoffe d'un champion du monde d'IndyCar, d'un champion d'IndyCar?
Je te réponds, mais mille fois. Et moi, je pense qu'il va retrouver, j'ose le dire, un plaisir de conduite et de pilotage qu'il n'a plus depuis longtemps en Formule 1. Parce que les machines d'IndyCar, elles sont beaucoup plus frustres, si tu veux. Le talent du pilote s'exprime beaucoup mieux. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je sais, j'y reviens, Sébastien Bourdais, dans sa petite équipe d'Elkhorn Racing, parvient parfois à lutter avec les puissantes équipes Andretti ou Penske ou autres. Eh bien là, ou Ganassi, Chip Ganassi, eh bien là, je suis persuadé Fernando Alonso, dans une très bonne équipe, avec un environnement comme celui-là, va retrouver un plaisir de conduite et nul doute. En plus, à Barber, il y a eu des conditions météo très variables.
Oui,
il a roulé.
C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs. Il a eu la chance de rouler sur piste sèche et piste humide. Donc, il a dit.
C'est
au
le seul à trouver que c'est une chance. Hein.
Oui, mais
oui, parce qu'il adore ça.
La voiture. Alonso tout craché.
Et oui, il a pu tester la voiture dans toutes les conditions et c'était la satisfaction mercredi effectivement lors de ses essais. Ouais.
Et mais juste pour rajouter, un élément très important, c'est pour faire référence. Je sais, c'était en 1993, vous n'étiez pas né, mais à Nigel Mansell. Nigel Mansell, vous connaissez bien sûr,
oui,
champion du monde de Formule 1. Lorsqu'il avait quitté la Formule 1 pour aller en IndyCar, eh bien moi je m'en souviens, je commentais l'IndyCar à l'époque, je peux vous dire que c'était un coup de tonnerre. Et donc Andretti a dit lui-même, ce sera la même chose. Si vraiment Alonso nous rejoint, il y aura un coup de tonnerre comme celui-là, c'est-à-dire avoir un double champion du monde de Formule 1 qui arrive en IndyCar, ça va mettre un coup de projecteur formidable sur l'IndyCar.
Benoît, on termine avec le WRC et le rallye de Turquie la semaine prochaine.
Et oui, c'est un événement, le retour du rallye de Turquie après 8 ans d'absence. Les pilotes vont retourner donc en Turquie. Ce sera du 13 au 16 septembre, évidemment, la semaine prochaine. Et on voit les choses en grand du côté des organisateurs. Est-ce que vous avez vu cette info incroyable?
Je l'ai vu, mais j'attends.
Le vainqueur de cette 10e manche du championnat du monde, donc en Turquie, se verra remettre, le temps d'une semaine, les clés d'un yacht de 47 mètres, qui a un petit nom d'ailleurs, le yacht s'appelle Bébé. Voilà.
Bébé.
Il sera prêté avec équipage pendant une semaine. pour le pilote et sa famille. Il comprend une piscine, un jacuzzi, la clim, le wifi et un piano.
Livré garni, quoi.
Voilà, en quelque sorte. Une bonne motivation pour aller gagner le rallye de Turquie après.
Ah oui, Jean-Luc, on s'inscrit?
Si tu veux, mais je suis pas sûr qu'on ait une seule chance de parvenir. Tu sais, moi c'est plus le tout terrain, mais le vrai. Et puis on rappelle le classement peut-être, oui, avec Thierry Neuville, 172 points. Et a priori c'est entre les deux que ça devrait jouer. Même si Tanak revient bien, Ogier 149 et derrière Aude Tanak 136. Je viens de le dire, Tanak qui était là et qui était le vainqueur du dernier Grand Prix en Allemagne, du dernier rallye en Allemagne, c'est oui. Révélateur. Donc effectivement, peut-être une belle bagarre à toi. Est-ce que...
Et toi qui en rêves, Jean-Luc, les discussions Citroën. Ogier, ça continue?
Écoute, ce serait... Alors, il a dit, Sébastien, il a dit une chose, c'est que de toute manière, ce sera son dernier contrat professionnel de pilote.
Il arrêtera quoi qu'il arrive à la fin de saison 2019.
Il l'a dit. Donc, effectivement, après l'enjeu, c'est je change d'équipe pour tout tenter, essayer de gagner avec une troisième marque, ce que personne n'a jamais fait. Être champion du monde avec une troisième marque, ce serait formidable pour le quintuple champion du monde, ça c'est un coup à jouer. Ou bien, privilégier les relations qu'il a avec l'équipe Ford, effectivement, et continuer dans son giron actuel.
13h56 sur RMC, juste avant de refermer ce Motors, on fait un nouveau détour par le rugby, la troisième journée de top 14 de match entre Grenoble et Pau. Jérémy Donzé.
Il reste 18 minutes à jouer ici au Stade des Alpes et c'est toujours Pau qui fait la course en tête, 17 à 14, 2 essais à 1 pour la section paloise. Jesse Mogg et Julien Blanc pour les palois contre Pablo Huberti côté grenoblois. Grenoble qui jette ses dernières forces dans la bataille pour aller chercher sa première victoire de la saison. Grenoble menait 17-14 sur sa pelouse.
Juste un mot, Louis, si tu permets, qu'est-ce qu'elles sont belles les grid girls en MotoGP, c'est un vrai bonheur.
Voilà, bravo, c'est tout, c'est voilà, court. C'était le mot d'enfin. J'ai vu sur la grille aussi Marco Materazzi,
moins intéressé, mais vraiment. Qu'est-ce que la Formule 1 a perdu?
On rappelle juste le yacht qu'on peut gagner si on remporte le rallye de Turquie. Oui, c'est pas un cadeau pour vous, les auditeurs. Je voyais Christophe Sessieux qui me regardait bizarrement. Un yacht équipé d'un piano, d'une piscine, d'un jacuzzi et du wifi, c'est presque comme chez Christophe Sessieux.
Et RMC en permanence. RMC
par le wifi. Un yacht comme ça, je peux vous le prêter.
Bah oui, c'est ça. Prête-le nous, ça sera plus simple.